On va pas aller remplacer un HubSpot dans une équipe de 200 sales. C'est pas le but aujourd'hui. On a été très générique pendant très longtemps. C'est pas pratique du tout d'être générique. Donc le but, c'est qu'on se recentre aujourd'hui sur des niches plus précises. Et de se dire bah, comment est-ce qu'on peut être le plus pertinent pour des agences de 10 personnes aux US, comment est-ce qu'on peut être le meilleur tool pour des investisseurs qui ont tant de deal flow par mois, etc., etc. Je pense que l'influence, c'est une... si on la voit comme une channel séparée des autres, c'est pas le bon prisme. On fait des premiers tests avec des créateurs français à l'époque, et je pense que c'est encore un peu le cas. C'était un petit peu le Far West, c'est-à-dire que pas de grille de prix, pas de process, et aujourd'hui tu vois, on a bossé avec plus de 400 créateurs.
Ah ouais, quand même.
On a un produit self-serve historiquement. Donc, on a rajouté cette partie sales il y a un peu moins d'un an, qui vient convertir des leads inbound avec des plus gros paniers moyens, des plus gros comptes, etc. etc. On a décidé de le faire nous-mêmes, l'attribution, avec un algo. Donc, c'était peut-être pas la meilleure idée au départ, mais...
Tout droit sorti du startup studio Exa, anciennement eFounders. Aujourd'hui, on va parler d'une boîte qui a décidé de s'attaquer au marché ultra concurrentiel du CRM. Je parle bien entendu de Folk. Alors évidemment, quand l'ambition est de se mesurer à des acteurs comme HubSpot ou Salesforce, ça m'intéresse. Surtout que Folk commence à se faire une place de choix sur ce marché. J'ai donc invité Erwan Gauthier, Growth and Go-to-Market Manager de la marque, pour nous expliquer comment ils réussissent cet exploit. Dans cet épisode, nous revenons sur les stratégies d'acquisition qu'ils déploient, notamment leur approche outbound, comment ils utilisent le levier de l'influence pour se développer et comment ils ont décidé d'intégrer l'IA dans leurs produits. Nous discuterons également des métriques clés que Folk suit pour mesurer son succès, des outils qu'ils utilisent pour piloter leur croissance. Mais avant de commencer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, abonnement, 5 étoiles. Je compte sur vous. Bonne écoute. Bon, Erwan, donc avec Folk, vous êtes sur le marché du CRM.
Ouais.
Qui est un marché pas évident.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
C'est un marché pas évident. C'est quand même une belle ambition de pouvoir s'attaquer à ce marché-là. Comment on fait la différence sur un marché comme celui-là ?
Ouais, c'est un bon point. Je pense que le marché du CRM, c'est le marché du SaaS le plus connu et le plus historique. Des acteurs comme Salesforce ou HubSpot sont là depuis quasiment plus de 20 ans. Et c'est surtout le logiciel SaaS le plus utilisé par les entreprises aujourd'hui. C'est un peu core business, en fait.
Ouais.
C'est devenu vraiment... quand on monte une boîte, on pense à son CRM un peu dès le premier jour. Donc du coup, c'est un marché qui est très, très éclaté. Ça passe de l'enterprise au SMB, en passant par l'individual user, etc. Et donc, en fait, il y a plein de SaaS différents qui adressent plein de segments de ce marché-là, différents, avec des cas d'usage différents, avec des features différentes aussi en fonction de l'usage que tu peux en avoir. Et nous, le positionnement qu'on a pris au départ, qui était vraiment de se concentrer sur la relation, là où, historiquement, les CRM ont plutôt eu cette vocation à être un accessoire de vente pour les équipes sales, marketing, etc.
Oui, c'est de la transaction.
Exactement, la transaction. Et nous, on a plutôt pris le parti de dire que c'était des relations qui existaient dans notre CRM et qu'en fait, bah, on reste des êtres humains à la fin. Et qu'en fait, gérer un CRM, c'est aussi gérer des relations, les relations qu'il y a entre ces relations, en collaboration, etc. Et donc, du coup, ce prisme-là qu'on a pris, qui est dans le produit aujourd'hui, typiquement, si on veut être très spécifique, nous, dans le produit aujourd'hui, il n'y a que deux objets qui sont people et compagnie. Donc, on a enlevé tous les sujets de relations, objets, deals, etc. Ça arrivera plus tard, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'on veut vraiment recentrer l'usage autour de la relation. Mmh. Et donc, c'est ce prisme produit qu'on a pris là. Et après, en termes de go-to-market, aujourd'hui, on essaye, en fait, de se faire une place dans ces usages-là qui sont pas adressés, en fait. On va pas aller remplacer un HubSpot dans une équipe de 200 sales. C'est pas le but aujourd'hui. Par contre, on est là pour apporter un CRM à une entreprise qui soit n'en avait pas, ça existe encore, soit en avait un, mais il l'utilisait à un potentiel, enfin, il l'utilisait à 2% de son potentiel, par exemple. Donc, on essaye vraiment d'adresser une cible qui était mal servie historiquement. Donc ça, c'est des cas d'usage différents, comme par exemple la levée de fonds, le recrutement, l'investissement, etc., qui sont des gens qui historiquement utilisent un CRM, mais pas dans le meilleur des workflows, voilà. Et aujourd'hui, qu'on leur donne un outil qui leur permet de le faire. Mais c'est sûr que ça marche très concurrentiel. Et en fait, notre cible et notre ICP, en fait, évoluent aussi en fonction des features qu'on lance.
Bah, bien sûr.
Parce qu'on adresse de nouveaux marchés, parce qu'on est capable de servir d'autres types de clients, etc., etc., quoi. Donc, très concurrentiel, mais il y a la place pour encore beaucoup de gens, quoi.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et j'ai l'impression, tu vois, que le positionnement de départ, il est très, personnel CRM. Tu vois un peu cette espèce de catégorie de CRM,
ouais,
qui sont les personnels CRM de, voilà, mes relations à moi en direct, il y avait un peu de ça aussi.
Il y avait un peu de ça. On essaye de s'en éloigner le plus possible aujourd'hui.
Ok.
Par exemple, des boîtes comme Notion le font très bien, qui ont des Notion a une grosse base, par exemple, personal user pour des note taking, etc. Nous, en fait, au départ, on a attiré ce type de personnes là parce que UI très léché, parce que facilité d'onboarding, etc., etc. Sauf que d'un point de vue revenu, c'est pas ces gens là qui vont générer ton revenu. Donc c'est eux les premiers adopteurs de l'outil, c'est eux qui vont parler, c'est eux qui vont l'utiliser. Mais à la fin, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est vraiment des équipes, des entreprises qui vont l'utiliser en mode collaboratif. On a créé le produit pour qu'il soit collaboratif. Et donc on cherche aujourd'hui à attirer ces gens-là. Donc il y a toujours des gens qui utilisent Folk en personal CRM. Tu vois, par exemple, on n'a pas de mobile app, par exemple. Et donc ça, c'est des choses qui seraient indispensables aujourd'hui pour être vraiment un outil de personal CRM. Comme Clay, comme d'autres outils, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est plus trop forcément un target qu'on a eu, mais au départ, on l'avait, ouais.
Ok. Et donc, on en avait parlé en off un petit peu avant, mais le sujet du positionnement, là, on est en plein dedans. Donc c'est vraiment des gros, gros sujets. Où tu me disais que c'est un travail qui revient, ce travail de positionnement. Concrètement, c'est quoi les questions que vous vous posez, tu vois, comment est-ce qu'on itère sur son positionnement, en fait?
C'est un très bon point. Il y a Elisa qui est arrivée chez nous il y a un mois, qui s'occupe de ce sujet-là. Et notamment, nous, en gros, le framework qu'on a, c'est se dire c'est quoi nos targets de revenus. En fait, on part toujours de là. Qui on veut adresser, comment on veut les adresser. Est-ce qu'aujourd'hui, notre produit, notre landing, toute notre GTM est aligné avec ces enjeux-là? Et on regarde aussi notre base existante, au final, qui sont nos power users, qui payent le plus, qui ne churn pas, etc., etc. Et donc, on va regarder dans toute notre base user, qui a le potentiel, enfin, quel segment a le potentiel d'être exponentiel, dans lequel il y a une profondeur. Et donc, du coup, ça passe déjà par interviewer des users, des clients, etc. Parce qu'il y a forcément de comment toi tu parles de ton produit. Et puis, il y a ce que les autres en disent, ce que les clients en disent. Et souvent, c'est un petit peu différent parfois. Et donc, du coup, on essaye vraiment de partir de ces verbatim users, etc., pour essayer de comprendre ce que eux en retirent comme valeur. Aujourd'hui, on a du mal à avoir un positionnement valeur ajoutée. Tu vois, on fait pas gagner du temps. Enfin, on n'arrive pas à le dire aujourd'hui. On ne fait pas gagner 5 heures. On fait pas x3 sur ton sales pipeline, etc. On n'a pas encore de metrics value proposition à avoir. Et donc, du coup, on essaye d'avoir plutôt des positionnements qui viennent adresser des besoins par niche et de se dire comment est-ce qu'on peut être le plus pertinent pour des agences de 10 personnes aux US, comment est-ce qu'on peut être le meilleur tool pour des investisseurs qui ont tant de deal flow par mois, etc., etc. Et donc on essaie d'être spécifique. On a été très générique pendant très longtemps, on était le all-in-one CRM. On en revient parce que d'un point de vue business, c'est pas pratique du tout d'être générique. Donc le but, c'est qu'on se recentre aujourd'hui sur des niches plus précises, puis après qu'on vienne réélargir quand on aura plus de matière pour ça, quoi.
Ouais. Oui, puis de regarder par exemple, on a identifié que ça c'était nos power users, toutes les personnes qui rentraient dans cette catégorie-là et qui ont churn, comment ça se fait qu'elles ont churn?
Exactement, etc. Ouais, c'est vraiment data-backed, on essaie vraiment de... Même si le positionnement était un sujet très marketing-brand...
Oui, mais à la fin, quand même.
À la fin, tu regardes quand même qui tu dois adresser, qui tu ne veux pas adresser aussi. Parce que le positionnement, c'est aussi un choix. Et souvent, des profils comme les nôtres, acquisition, on n'aime pas trop faire ces choix-là parce que ça exclut des potentiels sign-up et revenus. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Qu'il faut faire absolument et le plus tôt possible, si possible. Parce que ça permet notamment de bien roder un process et de bien roder tout un funnel, etc.
Je reviens sur le all-in-one.
Ouais.
Ce qui est, c'est effectivement un truc qui revient beaucoup. Je vois beaucoup de startups, tu vois, qui la tentation du all-in-one.
Bien sûr.
Tu vois, où t'es vraiment tenté de te dire non, mais vas-y, et puis comme ça, en plus, mon TAM est gigantesque, etc.
Ouais.
Et donc, la théorie est hyper sexy, la pratique est un enfer, en fait.
Ouais. La promesse, c'est de dire t'as plein d'outils, tu vas tout mettre dans un seul. Donc, il y a ce sujet, en fait, sous-jacent qui est d'économie, de temps, d'efficacité, etc. Ce qui marche parfois, mais à la fin, ça dilue complètement le message. Et puis même d'un point de vue activation aussi pour le produit, etc. Qu'est-ce que tu lances comme feature? Est-ce que tu lances une feature spécifique pour ce segment de marché-là, celui-ci? Et donc du coup, tu te retrouves à faire des features soit trop génériques, soit trop spécifiques. Même dans ton acquisition, t'es trop générique ou trop spécifique. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc c'est tentant au départ, mais à la fin, c'est compliqué, ouais.
Ouais, ok. Très bien. Aujourd'hui, c'est quoi du coup votre strate d'acquisition, go-to-market, comment est-ce que c'est quoi les leviers que vous exploitez le plus?
Ouais. Déjà, nous, pour notre cible, donc nous, on est une cible internationale par défaut. On a un produit en anglais, une landing en anglais. Donc, 70% de nos clients sont aux US. Donc, on a une stratégie internationale par défaut. Historiquement, on a beaucoup profité d'un word of mouth important, puisque issu de Hexa, puisque la France, etc. Quand on lance un produit en France, il y a tout de suite un petit peu d'engouement, donc ça, c'était cool. Donc, on avait une bonne waitlist avant de lancer le produit, etc. On a fait 4 product hunts depuis 2 ans. Ça l'est plus parce qu'on le fait plus, mais ça a vraiment été un boost pour nous, notamment au départ, à notre lancement. Donc ça a aussi attiré des premiers users, etc.
Pourquoi vous le faites plus?
Parce qu'on n'a pas forcément de feature. En fait, Product Hunt, c'est une chaîne d'acquisition et il faut venir avec une proposition de valeur. Ouais. Et tu peux pas juste lancer un produit en disant j'ai changé 3 boutons dans mon header, je vais faire un product hunt. Il faut arriver avec
proposition.
Voilà, exactement. On a fait un lancement, on a fait Fall Kicks, qui est notre Chrome extension qu'on a aussi lancé. On avait aussi intégré l'AI à un moment donné, donc on a refait un product hunt en intégrant ces sujets d'AI. Donc il faut arriver avec une proposition de valeur. C'est pour ça qu'on le fait plus là aujourd'hui, mais c'est pas interdit qu'on le refasse. C'est très demandant en termes d'efforts, mais ça vaut le coup. Voilà, et donc organique. Et donc aujourd'hui, nous, globalement, les 5 gros channels qu'on a aujourd'hui, la première, c'est l'influence, B2B. Je pense qu'on en reparlera après, mais...
Oui.
Mais voilà, ça a été... ça fait quasiment 2 ans qu'on en fait aujourd'hui sur LinkedIn. On a
mais arrêtons-nous
des... pardon,
arrêtons-nous
pardon,
sur le sujet de l'influence.
Pardon,
Non, mais voilà, parce que effectivement, premier channel d'acquisition...
Ouais.
On pourrait finir la liste, mais je pense qu'on peut s'arrêter.
Sachant que c'est la plus prépondérante. Donc
non, mais voilà, tu vois.
Bien sûr. Je
pense que ça vaut le coup quand même qu'on fasse un peu. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler d'influence avec Maxime de Penny Lane, avec Nicolas de Abby. Là, la particularité chez vous, c'est que c'est international.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas de Penny Lane, ce qui n'est pas le cas de Abby. Comment on s'y prend?
Il faudrait un playbook, faudrait que je le rédige ce playbook un jour. Ouais.
Bah ouais, carrément.
Ouais, ouais, c'est vrai. Comment on s'y prend? Bah, l'historique, c'est que moi, j'en avais déjà fait dans des boîtes précédentes, sur du B2C et du B2B. Donc, tu sais, les réflexes d'un gros scalaire dans une boîte, c'est qu'il refait des trucs qui ont déjà marché pour lui.
Bah voilà. Oui, non, ouais.
Donc, voilà. Et donc, on a commencé à faire des tests, ouais, il y a quasiment 2 ans. En fait, le critère, nous, qu'on a pris, c'est de dire, on a recevé beaucoup d'amour. Alors, le mot amour à mettre en perspective, mais des gens qui appréciaient le produit. Ils disaient, c'est beau, c'est facile, c'est... Donc, des gens qui exprimaient cette envie de partager aussi le produit. Donc, ça, c'était un bon critère. Le deuxième, c'est qu'on a un produit self-serve et free trial. Donc, du coup, il y avait cette viralité aussi naturelle. Et aussi, on a vu que notre audience était sur LinkedIn. C'est-à-dire que nos clients, ils nous envoyaient des messages sur LinkedIn. Ils étaient sur LinkedIn, en fait. Voilà. Donc on part de ce postulat-là, on fait des premiers tests avec des créateurs français, parce que plus simple, parce que plus accessible, etc. À l'époque, et je pense que c'est encore un peu le cas, c'était un petit peu le Far West, c'est-à-dire que pas de grille de prix, pas de process, les gens étaient très très peu habitués à ce qu'on vienne les voir pour ça, pas de module pour les créateurs pour voir leurs audiences, même pour les marques, c'est de voir un petit peu ce que ça peut donner comme ROI, etc., etc. Donc c'est un pari, clairement, à ce moment-là, c'est un pari. Paris qui est gagnant aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quand même un gros pari. Et donc, on fait les premiers tests, on voit que ça marche. On le voit en termes de sign-up, on le voit en termes d'ARR, on le voit, on le monite. Et après, une fois qu'on a trouvé ce prisme-là, on a su qui étaient les créateurs avec qui on voulait bosser, en termes d'audience, en termes de pays, etc. Et on a sourcé tous ceux qui ressemblaient à ces gens-là. Et aujourd'hui, tu vois, on a bossé avec plus de 400 créateurs.
Ah ouais, quand même.
En France, international, partout dans le monde. Donc parce que ça s'industrialise à la fin. Ça reste une channel, mais ça s'industrialise. Du coup, on a un process très très huilé du sourcing. On fait tout en interne, du sourcing jusqu'à l'invoicing, etc. Ouais, tout. On monitore tout avec un data warehouse en interne. Enfin, on a vraiment passé du temps sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet. Et encore une fois, je pense que l'influence, si on la voit comme une channel séparée des autres, c'est pas le bon prisme. Je pense que c'est un truc qui est lié en fait à ton organique, à ton présence social média au sens large. Est-ce que t'es fondateur post sur LinkedIn? Est-ce que, enfin, ça peut pas être isolé. Et donc aujourd'hui, ça fonctionne pour nous parce que on a aussi mis autour du contenu qui allait avec. On a aussi créé plein de contenus que les influenceurs pouvaient poster, qui nous paraissaient impertinents et qui l'étaient pour eux. Donc mais globalement, ça part de ce critère-là qui est de dire que l'influence était pertinent et aujourd'hui, ça devient une channel. C'est très dur à scaler, parce que c'est des humains. Et les humains, c'est compliqué à scaler. Et que t'as des variations et que t'as plein de choses. C'est pas du tout prédictible comme channel. Il y a des mois où tu te dis que ça va être incroyable et puis ça l'est pas. Et des mois où tu te dis que ça va être compliqué et puis ça, finalement, ça fait beaucoup de revenus. Donc c'est très peu prédictible, mais par contre, c'est une channel qui a vraiment, vraiment beaucoup d'impact. Et nous, on le voit aussi même, tu vois, ça ruisselle sur une marque employeur. Ça ruisselle sur des taux de conversion sur LinkedIn qui sont meilleurs. Ça ruisselle sur plein de trucs, en fait. Plein de social proof qu'on a. En fait, c'est une channel qui, en fait, tu peux la mesurer autant que tu veux. À la fin, ça ruisselle sur des choses que tu pourras pas maîtriser, quoi.
Et justement, j'allais poser la question de comment est-ce que tu... Parce que tu dis, voilà, j'ai testé, j'ai vu que ça fonctionnait. Ouais. Donc, au début, tu faisais quoi? Du link avec des UTM, des machins comme ça? Ou alors, tu cadençais suffisamment tes lancements pour être en mesure de te dire, ah bah là, si on a un impact, c'est ce créateur, si on a un...
Au tout début, oui. Au tout début, oui, clairement. On n'a jamais fait d'UTM. Parce que on a voulu aussi, et c'est toujours une envie, c'est qu'on veut faire en sorte que le post soit le plus organique, naturel possible. C'est moins qu'aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque. Et donc, du coup, on n'a jamais fait du TM. Donc, effectivement, on séquençait. À l'époque, il y a 2 ans, on faisait pas 3000 signes par jour. Donc, ça se voyait quand on avait un pic. Donc, on l'attribuait facilement. Et aujourd'hui, on a construit une stack data en interne. Et en fait, on vient dire que le post est posté le 15 août à 14h et on attribue les sign-up 48 heures après avec une régression en disant bah ces sign-up-là s'attribuent à tel post, tel jour, telle heure, à tel influenceur. On réalloue la RR, on a un CAC payback attribué, etc. Donc on pilote tout en fait.
Ah ouais.
On pilote tout, c'est-à-dire que chaque influenceur a un CAC payback. Si c'est pas rentable ou pas profitable pour nous au bout de X temps, on est capable de dire on arrête la collaboration ou par contre on est capable de dire
donc ah oui.
On a vraiment tout backé d'un point de vue
c'est vraiment une personne un ouais. Channel
exactement en
fait. C'est ouais. Exactement de la même manière que tu te dirais bah, je vais couper
c'est
mes
un
investissements
ad group. C'est un ad group
ouais. Ouais, voilà.
C'est un ad group
ouais,
exactement
ouais, c'est vrai
ouais,
c'est
exactement.
Ça donc oui j'ai cet ad group qui fonctionne pas
ouais.
C'est que il faut couper quoi
ouais exactement et puis après des fois tu découvres des choses. Tu fais des tests sur des audiences que tu imaginais pas. On a par exemple on a testé des pays avec l'influence tu vois plutôt que d'ouvrir des landings ou de l'ads. On a testé un influenceur, par exemple, au Brésil, une fois. C'est la façon la plus simple pour nous qu'on a eu de tester un marché.
C'est intéressant.
Tu vois, au début, on savait pas si les recruteurs étaient une cible. Bon, bah, on a pris 3 influenceurs qui parlaient de recrutement. On les a fait poster. On a bien vu que ça avait de l'impact. Donc, tu vois, c'est aussi une channel pour nous qui nous permet de rapidement tester un segment de marché, etc. Parce que c'est du retour très, très, très immédiat, en fait. Voilà.
Et comment tu les identifies, les créateurs?
Très bonne question. Manuellement. Très manuellement,
ah ouais.
Très très manuellement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus et on commence à avoir un espèce de ressenti quand on voit un profil LinkedIn. Bien sûr, il y a la data qui te dit tel type de poste, tel type d'influenceur dans tel type de région marche. Puis après, il y a ce que tu vois sur le profil de la personne et tu te dis ok, la façon dont il a de parler de ses sujets, je sais pas le taux d'engagement qu'il a, les likes qu'il a, etc. fait du sens pour nous. Donc c'est très manuel, tu vois, on a des batchs de 150-200 influenceurs par semaine qu'on reach out partout dans le monde, donc c'est des gros volumes, et le but c'est que c'est un funnel, donc tu les contactes, sur les 200 que tu vas contacter, tu vas bosser avec 10, tu vois, donc ouais, très manuellement, et après on se sert aussi beaucoup de la recommandation, les influenceurs avec qui on travaille bien nous recommandent auprès d'autres créateurs, etc., etc. Y a pas d'inbound. Voilà. Personne ne vient te voir en disant « J'aimerais beaucoup poster pour toi, ça serait génial. » Ça n'arrive pas. Voilà, donc...
Ok. Tu disais, t'en contactes 200, t'en as 10 en sortie.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu les perds? Ils te répondent pas?
Ouais.
Le deal est pas le bon?
Ils te répondent pas, 50% du temps.
D'accord.
Y a des fois où l'audience marche pas, ou en tout cas... Ils voient pas très bien l'intérêt par rapport à Folk dans leurs audiences. Ils disent ok, bah ça fait un peu tâche entre guillemets dans ma ligne édito.
Ouais.
Voilà. Après à nous aussi d'amener le produit et dans leur cas d'usage à eux. Donc ça c'est aussi important. C'est obligatoire que tout le monde soit user de Folk. Tous les personnes avec qui on travaille soient user de Folk. C'est obligatoire parce que sinon ça crée complètement. Enfin c'est compliqué pour quelqu'un de parler d'un produit.
La dissonance cognitive.
Ouais, clairement. Clairement. Et puis c'est à nous de leur expliquer des fois le produit, etc. Donc c'est compliqué. Donc on demande à chaque fois ce que les gens soient clients de Folk. User de Folk. Et donc, ouais, donc pas de réponse. Lead Inito, pas en accord avec le produit. Les prix, c'est une négo à la fin. Hein. Nous, on a des modèles de pricing qu'on applique sur chaque personne avec qui on travaille. Et en fonction de ces modèles-là, on n'est pas prêt à aller au-dessus. Parfois, on est prêt à aller au-dessus, etc., etc. Donc après, c'est Encore une fois, c'est des paris que tu fais. Le but, c'est d'après de s'y retrouver d'un point de vue revenu, CAC payback, etc. Quoi.
Évidemment.
C'est toujours le sujet à la fin. Donc
À la fin. Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth. Et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend.
Bon, bah écoute, on a bien parlé de ce sujet d'influence. Donc, je reviens sur la question de base de stratégie d'acquisition go-to-market. Premier levier, l'influence.
Ouais. Deuxième levier, l'organique. C'est pas un levier, mais c'est ce que je vois moi dans mon data warehouse. Donc, je le dis tel quel. Mais c'est un organique qui découle un petit peu de l'influence, qui découle un petit peu des launch produits qu'on fait.
Vous faites pas de SEO?
Non, bah, un petit peu, mais c'est pas une stratégie agressive, tu vois. On en fait.
Mais tu peux pas l'attribuer au SEO.
On attribue l'ARR au SEO, mais c'est vraiment différent de organique au sens organique du terme.
Ok, voilà. Ok.
Donc on fait du SEO, tu vois, aujourd'hui c'est 10-15% de notre revenu, mais organique est toujours 20-30% de notre revenu, et donc, bah, tu vois, dans des positions comme les miennes, difficile d'activer quelque chose quand tu vois 100%. Ces cibles-là, enfin ces signaux-là. C'est très dur, je trouve, d'en avoir une réflexion, quoi, de se dire ok, bah comment je fais pour faire bouger ce chiffre là malheureusement pas trop, quoi.
Oui, c'est un sujet de brand, et donc,
c'est un sujet de brand, c'est un sujet global de tous les channels, etc. Voilà. Donc ouais, SEO fait partie des channels. On fait de l'ads, on fait du Google search. Le mot clé CRM est le mot clé le plus cher du monde, voilà. Donc ça te donne un petit peu le contexte dans lequel on évolue. Donc on va pas forcément aller en confrontation directe avec des acteurs du marché sur des mots clés très très avec beaucoup beaucoup d'intention. Donc on passe plutôt par les fenêtres. On a des stratégies plutôt long tail, medium tail, en disant on est des cas d'usage spécifiques ou des features spécifiques, etc. Et ça marche bien aujourd'hui. Voilà, on fait de l'affiliation aussi.
Ok.
Qui est en fait un enfant de l'influence quelque part.
100%.
Voilà, parce que tu travailles avec des gens, ces gens-là veulent te recommander. Bon, c'est quelque part la même démarche, quoi, un petit peu.
Affiliation sur des comparateurs, des trucs comme ça?
Comparateurs, avec des gens qui sont intégrateurs de CRM ou des consultants en CRM, etc. Des gens qui ont des blogs, effectivement. Voilà, un peu, c'est un petit peu le début pour l'instant, donc on a un spectre assez large sur les affiliés avec qui on travaille. Mais ça porte ses fruits, et en tout cas, en fait, c'est toujours le même sujet. Nous, on a un ACV qui est quand même, très faible, qui est faible. Tu vois, on est à 450-500 $ d'ACV. Donc du coup, on peut pas se permettre d'avoir des channels très chers. Et donc du coup, bah, affiliation, SEO, influence, organique, ads, l'un dans l'autre, ça nous arrive à, on arrive à avoir des CAC payback et des sign up CAC qui sont intéressants pour nous, quoi. Donc, donc ads, SEO, affiliation, influence. Et après, on teste outbound, etc. Mais c'est, ça prend pas des grosses parts pour l'instant de notre revenu et de la channel qu'on a, quoi.
Le fait que vous ayez une vision très globale, tu vois, de votre marché, je sais pas, sur un sujet comme les ads par exemple, comment tu splits?
On a des tiers en pays, tu vois, tiers 1 avec les pays qu'on veut absolument targeter, qui sont pour nous les US, UK, évidemment. France, etc. Et donc c'est là où on dépense le plus de budget, là où on fait le plus d'efforts sur les copies, sur les ad groupes, etc. Et après, on a des tiers 2, tiers 3 dans lesquels on a effectivement des ads aussi qui tournent, mais qui sont qui du coup drive moins de revenus, mais on paye moins cher le sign-up, etc. Et donc du coup, on a par défaut un marché global, produit en anglais, landing en anglais, donc on ne split pas les langues, on fait tout en anglais partout, et on a une stratégie de se dire on a les mêmes ad groupes sur tous les pays sur lesquels qu'on adresse, donc on a vraiment une stratégie globale dans le sens où on fait la même chose pour tout le monde.
Ouais. Voilà.
Et après, on voit ce qui vient marcher, pas marcher. Et après, on fonctionne, on ajuste, quoi.
Mais autant, tu vois, avoir tout le site en anglais, ou pousser, tu vois, faire un push d'ads global, d'accord, mais à la fin il y a un sujet budgétaire de comment est-ce que t'allouent ton budget, en fait, c'est surtout ça, c'est le truc, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et donc là, effectivement, tu te dis, j'ai un budget market global, ce budget market global, j'en donne, je sais pas, 50% à mon tier 1, 30% à mon tier 2 et 20%.
Nous, plutôt l'inverse, on part pas d'une enveloppe, on parle plutôt des hypothèses qu'on peut avoir derrière, entre guillemets, est-ce que si on met un euro là, ça nous fait 2 ou 4. Donc c'est des hypothèses à chaque fois. En fait, on est prêt à dépenser beaucoup si ça nous... Enfin, c'est bête ce que je vais dire, mais voilà. Donc, il y a beaucoup, tu vois, de partenaires qui viennent nous voir en disant « Vous avez combien d'enveloppes budgétaires ce mois-ci ?» Pas leur répondre, en fait. C'est en fonction de l'intérêt que cette channel a, etc. Et je pense que ça, c'est aussi... Enfin, pour tous les profils grosses aussi, on va là où ça nous ramène le plus de revenus et d'impact, quoi. Donc, pour répondre à ta question sur la partie ads, globalement, on attribue aujourd'hui un budget en fonction des performances passées. En disant, OK, je donne un exemple, UK recruiting, ça marche très bien. Bon, le mois d'après, on est prêt à allouer une part plus importante de ce budget-là. Mais au départ, ça reste un pari. Enfin, les premiers mois, tu fais des hypothèses, tu perds l'argent, évidemment. Et ensuite, au fur et à mesure, tu améliores ce que tu fais, quoi.
Tu te mets une target. Ouais. Si t'es en dessous, t'augmentes le budget. Si t'es au-dessus, tu diminues le budget et basta.
Exactement.
C'est ce qui est, notamment sur une phase vraiment go-to-market, test and learn, etc. Exactement. C'est toujours... nous, c'est une reco qu'on fait, tu vois, chez Bulldozer, où quand on va commencer, les boîtes qui font appel à nous pour tester vraiment des phases de go-to-market et tout, qui me disent, j'ai ce que je vais vous donner, puis après, combien je vais dépenser en ads. Tu vois, moi, je suis toujours un peu gêné de leur dire, moi, si ça marche, je vais vous encourager à dépenser. Si ça marche pas, je dépenserai moins.
Évidemment.
Et du coup, tu sais, ce que je dis souvent, c'est, on va définir une enveloppe un peu de base qui permet de se dire... On a atteint des niveaux d'échantillonnage qui nous permettent de pouvoir prendre une décision.
Évidemment.
Mais c'est un peu ça la réflexion. C'est combien on est prêt à dépenser pour prendre cette décision. Et après, on verra en fonction des perfs.
Ouais, exactement. Et puis, je pense que tu vois aussi tes dépenses. Nous, vu qu'on a beaucoup d'organique, tu vois, nous, on regarde des performances globales. Tu vois, donc chaque channel a des performances. Après, quand tu viens tout relier, c'est ce que nous, on regarde, en fait. C'est d'un point de vue business, c'est ce qu'on va regarder. Oui. Évidemment, on pilote chaque channel avec ses propres KPIs. Mais à la fin, on regarde globalement ce que Folk, au sens large, génère, quoi.
OK. Top. Tu disais outbound,
On en fait. Après, c'est en fait, nous, aujourd'hui, on a une équipe sales. Elles sont trois aujourd'hui à faire de la sales chez Folk. On a un produit self-serve historiquement. Donc, on a rajouté cette partie sales il y a un peu moins d'un an, qui vient convertir des leads inbound avec des plus gros paniers moyens, des plus gros comptes, etc., etc.
Mais on peut pas faire de demande de démo aujourd'hui.
Si.
Et donc, quand tu fais une demande de démo, tu parles à...
On te qualifie et on vérifie que tu es pertinent pour parler à un être humain. Et si c'est le cas, tu parles à quelqu'un. Mais encore une fois, il y a deux façons. Il y a soit, en fait, les démos aujourd'hui, c'est soit généré par effectivement ce form sur le website, soit c'est des gens qui viennent tout seuls dans self-serve. Nous, on détecte des usages produits, on détecte des tailles de boîte, on détecte des ICP clairs, etc. Et dans ce cas-là, on leur suggère très fortement de prendre une démo avec nous.
Donc c'est vraiment product-led sales.
Exactement. Exactement. Donc et ça, on les fait arriver dans le forme de démo, enfin dans la partie démo, grâce à ça. Et après, il y a l'outbound. Donc en fait, si tu veux, on fait entre 150 et 200 démos par semaine. Et globalement, tu vois, l'outbound, c'est 10% des démos aujourd'hui. Mais ça a vocation à prendre de plus en plus de place, notamment parce que on n'attire pas toujours en inbound ce qu'on a envie d'avoir démo, pas tout le temps. Donc on est obligé aussi de compenser avec l'outbound. Et donc du coup, on vient chercher des ICP plus précis, avec des intentions beaucoup plus fortes, etc., qui sont du coup des trucs vachement intéressants pour les sales en démo, quoi.
On en revient encore une fois au sujet de positionnement aussi.
Tout à fait. Ouais.
C'est forcément au début, quand tu es en train de chercher ton positionnement, tu te dis, je vais prendre en démo les gens avec qui j'ai moyen de faire du revenu.
On a pris tout le monde pendant très longtemps. Voilà. Évidemment.
Et puis à partir du moment où tu identifies vraiment un ICP et tout, vas-y, là on peut peut-être aller taper de l'outbound.
Exactement. Ouais, exactement. Et tu vois, enfin, moi j'ai fait beaucoup de démos aussi pendant longtemps. Tout le monde dans l'équipe a fait de la démo. Et en fait, tu te retrouvais à faire des démos avec des personnes qui en fait voulaient utiliser Folk pour gérer leur anniversaire. Donc, Tu te demandes si ton temps est vraiment très impactant. En fait, tu te demandes si l'apport de la démo dans la conversion a un sens, en fait. Et tu vois, nous, globalement, 90% de nos paiements enfin nos revenus arrivent à le serveur, avec le serveur. Mais on sait que par contre la CV et le churn, etc., des gens qui passent par le sales est plus intéressant pour nous, quoi. Donc ouais, après tu adaptes, forcément tu adaptes, mais au début t'es obligé de tout faire, quoi.
Ce côté product-led sales, ouais. Je crois pas en avoir déjà discuté avec des personnes dans Conquête, donc ça m'intéresse en fait de savoir. Tu mentionnais le fait que vous détectez des usages, ouais. Des intents, etc., qui permettent de se dire ok, on va déclencher ce truc-là. Comment est-ce que vous mettez ça en place en fait ? Parce que c'est, ouais. je trouve que c'est un truc qui est pas suffisamment utilisé par les SaaS notamment.
Ouais.
Donc je trouve ça intéressant que tu nous expliques.
Ouais, carrément. En gros, les premières briques qu'on a mis, on a utilisé deux types d'intent qui sont marketing. Donc là, on vient enrichir toute notre base avec le job title, la company size, l'industrie, etc., etc. Qu'on nous donne ou qu'on ne donne pas à l'onboarding, pardon. Et donc ça nous donne déjà la cartographie marketing du compte qui vient d'arriver dans Folk. Et ensuite, on vient regarder des intent produits. Et donc nous, derrière, en data, on sait quel type d'événement a conduit à une conversion, historiquement. Donc, on sait l'importance de tel événement dans la pondération de la conversion. Donc, par exemple, on sait que, par exemple, je sais pas, inviter un user, quand tu le fais cet événement-là, t'as une chance de convertir qui est 5 fois plus grande que quelqu'un qui ne l'invite pas. Donc, du coup, ça te rajoute un point, entre guillemets, dans ton scoring. Et du coup, on vient alimenter ce scoring-là, et quand il dépasse un certain score, là, on est capable de dire, ok, cette personne-là, il faut absolument qu'on lui parle en démo, parce que globalement, d'un point de vue marketing, ça fait du sens parce que taille de boîte, c'est pertinent. Industrie, c'est pertinent. Des fois, on détecte aussi le CRM qu'ils utilisent. Donc, on se dit, OK, on peut faire concurrence avec ce CRM-là, etc. Et ensuite, product usage, parce qu'on estime que c'est hyper important que les gens soient déjà dans le produit quand ils arrivent en démo, pour que nous, on n'ait pas une démo produit, mais qu'on ait vraiment une discussion commerciale. Parce que pendant très longtemps c'était le cas, on prenait des mots parce que les gens voulaient voir le produit en fait. Ils avaient entre guillemets la flemme de passer par self-serve et le free trial, et en fait ils arrivaient en démo en disant comment on fait ? Sauf que en fait
j'ai la flemme d'utiliser le produit, mais j'ai pas la flemme de prendre une
exactement
démo.
C'est rare.
C'est quand même bizarre.
Ouais, c'est bizarre. Je suis d'accord, mais il y a des gens, tu vois. Encore une fois, positionnement aussi. Tu vois, on en revient à chaque fois.
Oui, on en revient à ça. Ouais.
Mais quand tu vois la landing. Est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas dans mon cas d'usage, etc. Bon, parfois, il y a des gens qui préfèrent tout de suite parler à un sales ou parler à quelqu'un. Donc, pour du client sales, deux intent marketing et plutôt pour product. Et en fonction de ces intent-là, on pousse des démos. Et ensuite, on a un flow de démos classiques, tu vois, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, etc. Et closing. Mais en gros, globalement, toutes les démos qu'on fait aujourd'hui quasiment sont une demande. Donc, si tu veux, nous, dans l'équipe GTM aujourd'hui, tout est très, très lié, en fait. Il n'y a pas de démo qui arrive de nulle part ou d'un SDR quelque part. Les démos, elles arrivent, en fait, de l'inbound que tu attires. Et naturellement, les sales me disent, OK, tel type d'ICP, tel type de client, c'est pas génial, ça, c'est mieux. Donc, nous, on réajuste. Donc, c'est aussi une roue qui tourne et qui est plutôt pertinente pour nous, quoi.
OK. Intéressant. Et donc, tu détectes les intents, produits, etc. Et là, c'est quoi ? Tu te prends une pop-up à la prochaine connexion qui te dit il faut qu'on parle.
Ouais, banner effectivement dans le produit. On envoie des emails, évidemment. On a testé aussi le de rappeler au téléphone. On avait mis en mandatory le téléphone dans l'onboarding. Ça a été un sujet, pas de conflit, mais de discussion avec les équipes produits, tech, GTM, etc. Parce que il y a une très grosse friction quand même à mettre un numéro de téléphone dans le onboarding. Bon, 80% des gens mettent un faux numéro de téléphone, évidemment, donc ça c'est très rigolo. Mais donc on rappelait ces gens-là pour leur suggérer une démo. On les recontacte sur LinkedIn. En fait, on fait tout pour les avoir, d'ouvrir un canal de communication. Et une fois qu'on les a, là, c'est à nous aussi de générer aussi de l'intention en disant est-ce que t'as suffisamment vu les possibilités de produit ? Est-ce que tout le monde est bien demandé dans ton équipe ? Etc., etc. Donc, en fait, on veut pas pousser une démo juste pour pousser une démo. Il faut que la démo ait un intérêt de conversion pour nous et d'intérêt d'usage et d'expansion pour le workspace avec qui on travaille, quoi. Donc, ouais, email, téléphone, banner, en fait, tout ce qui est possiblement possible pour avoir, en tout cas, ouvrir une conversation. Voilà.
OK. Top. Au niveau de l'organe interne, la team, comment c'est...
On est une vingtaine chez Folk aujourd'hui. Il y a 12 personnes à la tech, avec deux designers. Et on est 6 dans l'équipe GTM aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé, on était 3. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'orga par, en fait, on fonctionne plutôt par funnel. Moi, plutôt, c'est des sujets top of funnel, acquisition grosse, etc. Avec Elisa sur les sujets marketing brand. Et ensuite, on a donc Andrea et Jean qui sont sales aujourd'hui et Julie qui s'occupe de la partie sales et customer success, support, etc., etc. Et Julien qui s'occupe de la partie SDR et ops, qui vient huiler aussi nos process, nos tooling, etc. Donc, on est une équipe très transverse pour le coup. On fonctionne pas du tout en silo. On est sur des sujets très transverses à chaque fois. Pas d'orga, tu vois. Y a pas équipe grosse, équipe sales.
Oui.
C'est vraiment, enfin, je pense que...
Là, tu vois, quand tu m'as dit équipe GTM, ouais, et que tu me cites les sales, etc., ouais, je me dis, ah ouais, ok, ils savent.
Oui, on sait ce qu'on fait.
C'est une même team.
Ouais,
quoi,
c'est une seule équipe. C'est une seule équipe. On se considère d'ailleurs comme, enfin, c'est une seule équipe. Et ça devrait être le cas pendant encore longtemps. Enfin, on espère. C'est que le but, c'est d'avoir des spécificités métiers, mais qu'à la fin, le driver unique de cette équipe-là reste la croissance à l'ARR. Et donc on est encore très très flat sur l'organisation. Je pense que de toute façon quand on est une équipe de 23, oui, les gens qui commencent à mettre des strates à 23, ça finit jamais très bien, je pense. Donc, ouais, donc le but c'est qu'on reste le plus flat et qu'on soit expert sur nos sujets et qu'on vienne aussi apporter l'expertise aux autres membres de l'équipe, quoi.
Ok. Tech, GTM et
design, people, après okay, admin, etc., quoi.
Donc fonction support, on va
exactement
dire.
Ouais.
Ah ouais, ouais, vous êtes lean, hein,
ouais,
quand même.
Ouais, efficace, ouais.
Ouais, c'est plutôt efficace, ouais, très cool. Et donc, ouais, toi, tu disais, donc, focus, bon, t'as dit top funnel, ouais, j'ai quand même l'impression que c'est... Enfin, bah, en réalité, tu fais top et bottom funnel.
Oui, mais... tu fais, bah, bien sûr, on fait beaucoup de choses, enfin, tu vois, je fais pas que l'acquisition, je fais pas que la conversion, etc. Mais donc, historiquement, je suis plutôt orienté sur ces sujets, acquisition, top of funnel. Et après, on bosse sur l'activation avec le produit, on bosse sur les emails d'onboarding, on bosse sur le pricing, on bosse sur plein de choses. Donc moi, oui, enfin, mon day-to-day est quand même rempli de sujets plutôt acquisition, ouais, les channels qu'on a évoqués au début. Et après, je viens en support aussi, ou aider, ou travailler avec les autres membres de l'équipe sur des sujets plus transverses, quoi, qui sont moins liés à l'acquisition.
Tout à l'heure, tu vois, on parlait des différents channels et tu disais que c'était un peu... Enfin, t'as notamment le channel organique, ouais, bon, difficile de mesurer, ou voilà... Comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères tes sujets d'attribution ?
Très bon point. Très bon point. On a décidé de le faire nous-mêmes, l'attribution, avec un algo. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée au départ, mais.
Ah ouais ?
Bah, parce que c'est. En fait, c'est pas la meilleure idée dans le sens. C'est très complexe. C'est la meilleure idée parce que tu l'as en interne.
Oui, oui.
Et tu vois, nous, on bosse avec Alexandre qui est en data chez nous et qui a construit le data warehouse, qui a tout relié. Enfin, en fait, on a vraiment tout misé sur notre data warehouse en interne. Et du coup, dès qu'on a un sujet data, on vient tout de suite le plugger au data warehouse pour être sûr que ça soit pas un enfant seul quelque part qui traîne, quoi. Et donc, l'attribution, aujourd'hui, globalement, sur notre channel qu'on a, bah, l'influence, on en a parlé, on utilise le timestamp d'un post LinkedIn avec un algo, etc., pour essayer de le relier à un ARR. L'affiliation, c'est des UTM. Donc ça, c'est plutôt facile. L'organique, c'est l'organique. Voilà, donc tu l'attribues à pas grand chose et tu sais pas trop d'où ça vient, mais tu l'attribues un petit peu quand même. Et ensuite, donc l'attribution aujourd'hui, on arrive à le faire en interne avec de la data. On n'a pas d'outil d'attribution, on n'a pas de choses comme ça. Mais globalement, on est plutôt assez clair, je trouve, quand je parle avec d'autres personnes à notre stade de développement dans une boîte SaaS, on est plutôt avancé sur ce sujet-là.
Bah, attends, déjà, vous avez traité le sujet.
Ouais.
Déjà,
ouais.
Ne serait-ce que ça,
non,
tu vois.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais donc, on est plutôt avancé. Après, encore une fois, le but, c'est que ça... Enfin, en fait, je pense qu'on a fait le bon pari, le bon choix de tout développer en interne au départ pour être sûr que ça soit quelque chose qui soit scalable et que ça puisse être personnalisé, mais adapté complètement à ce qu'on fait, à nos channels, à comment on fonctionne, etc., et pas prendre un outil d'attribution externe. Et j'ai rien contre les attributions externes, mais souvent... c'est pas tout à fait adapté à, oui, oui, à tes channels, etc., etc., quoi.
Mais est-ce que tu peux me dire un peu des règles d'attribution que vous vous êtes données?
Ouais, first touch.
D'accord.
Voilà, ça c'est la règle de base. First touch, on fait pas de multi-touch. Voilà. Et après, on fait un tout petit peu de last touch, notamment sur l'affiliation. Parce que faut qu'on rémunère correctement nos affiliates et que c'est important pour nous et pour eux. Voilà. Mais donc, first touch de base. Et ensuite, on attribue le sign-up à l'ARR. Donc, le sign-up, si tu sign-up le 15 juin, on attribue l'ARR au 15 juin. Le spend aussi. On essaie d'attribuer le spend que tu as pour un sign-up et donc l'ARR. Parce que nous, on regarde le CAC payback de ce sign-up-là. Et donc, du coup, on essaye de vraiment attribuer tout sur la même date. En fait, je pense que le sujet d'attribution, il y a beaucoup de gens qui complexifient, je pense, les choses, mais à la base, c'est quand même juste une temporalité, en fait. Et de se dire, ça arrivait à tel jour, telle heure. Si j'ai dépensé 1 euro, que ça m'apporte des 2, il faut que je sache que c'est ce même événement qui a causé les deux effets, en fait. Et c'est ça, en vrai, le vrai sujet. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de tout mettre sur la date de sign-up pour être sûr qu'on attribue bien correctement tous les événements liés à ce sign-up en question, quoi.
Quelqu'un qui sign-up en free aujourd'hui, ouais, qui convertit dans un an.
Mm-hmm. Je le savais.
Donc tu le sauras, mais surtout tu attribueras le channel de aujourd'hui.
Exactement.
Revenu sera.
Ouais,
d'accord.
Exactement.
Ok. Et.
Bah, nous, on regarde des cohortes, c'est-à-dire que nous, tu vois.
Bien sûr.
Les cohortes qu'on regarde, il y a des cohortes de septembre, de mai dernier qui continuent d'augmenter parce que y a des gens qui sont plus lents que la moyenne, tu vois.
Oui,
qui ont besoin de plus d'onboarding, qui reviennent sur un produit, qui. Voilà,
puis ils avaient besoin d'une feature et puis elle sort maintenant.
Il y a plein de choses. Donc, et nous, on regarde des cohortes. Nous, globalement, les KPI qu'on regarde, elles sont très, très basées sur des cohortes. Et donc, globalement, les cohortes qu'on regarde, y en a qui continuent de grossir des mois après, quoi. Donc,
Du coup, je viens de me rappeler d'une question que je voulais poser tout à l'heure et qu'en fait, j'avais zappé. C'était sur le sujet du positionnement où, ouais, tu me disais en off que, en fait, le gros challenge aussi du CRM, c'est que, bon, OK, t'as un sujet de positionnement, de messaging, etc. Mais à la fin, t'as quand même beaucoup de gens sur le marché qui viennent avec leur checklist.
Ouais.
Et c'est soit tu réponds à 100% de la checklist, soit ils se barrent.
Tout à fait.
Comment est-ce que tu peux concilier, tu vois, un peu ce besoin de message marketing, on va, ouais, appeler ça comme ça, avec cette réalité marketing, mmh, qui est, en fait, la personne, elle vient pour des features.
Bien sûr. Je pense que déjà, il faut être transparent. Tu vois, je pense que sur ce que tu peux délivrer et sur le message que tu donnes sur ta vitrine, il faut que tu sois transparent et que tu ne survendes pas un produit, un usage, une efficacité, etc. Je pense que ça, c'est important. Et ensuite, il y a ces sujets de nurturing, en fait, qui sont hyper importants pour nous, qui sont que, tu vois, nous, toutes les requests qu'on a de features, etc., de nos users, on les flag et on fait une feedback loop très, très...
D'accord.
Fréquemment, en disant, au fait, tu nous as dit il y a 3 semaines que ça manquait, juste pour te dire que c'est fait. Voilà. Et ça marche. En termes de conversion, il n'y a pas mieux. Très clairement. Donc ça c'est hyper important pour nous. Et tu vois, on commence à avoir des grosses bases users aussi. Donc ça nous arrive aussi de segmenter aussi et de se dire, ces personnes-là qui sont venues de tel channel, par exemple Google Ads, et qui sont venues avec un intent, Analytics for SMBs, qui ont découvert le produit mais qui n'ont pas été au bout, parce que par défaut, ils sont venus pour quelque chose qu'ils n'allaient pas trouver chez Folk. On est capable de les retargeter et de dire, au fait, Analytics, c'est sorti, etc. Analytics, c'est pas le bon exemple puisque c'est pas sorti, mais pour d'autres sujets, c'est le cas. Et donc, le but, c'est vraiment qu'on ait cette feedback loop en permanence pour être sûr que ces gens-là soient convaincus qu'on déjà... Je pense qu'il y a un sujet de transparence aussi sur, on vous a dit que si on allait le faire, on l'a fait. Et ça, c'est important, je pense, d'un point de vue produit. Et puis aussi que on soit aussi en contact avec nos users pour que le produit s'adapte aussi à eux, quoi.
Du coup, vous avez aussi la nécessité de faire, par exemple, des landing pages par feature ou ce genre de choses.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, on le fait. On a un changelog aussi qu'on met à jour à chaque fois qu'on sort quelque chose. On essaie globalement d'avoir un launch toutes les semaines. Alors, pas toujours un énorme launch, etc. Oui. Mais toutes les semaines, on essaye en tout cas de dire on a améliorer telle ou telle partie du produit, etc., etc. Et en fait, d'un point de vue acquisition et conversion, c'est hyper efficace. Et c'est surtout que tu découvres des angles, enfin, tu découvres ou tu spécifies des angles d'acquisition. Et typiquement, tu vois, on a lancé l'enrichissement là, il y a quelques semaines. C'était une feature qui nous manquait. Et donc, ça ouvre des perspectives d'acquisition, notamment, qui sont très cool, tu vois, parce que ça vient targeter d'autres types de cas d'usage, des gens qui font de la prospection, des gens qui font du recrutement, par exemple, qui ont besoin d'avoir beaucoup de data sur leurs candidats. Et donc, en fait, chaque feature, en fait, vient augmenter le TAM, en fait, qu'on a actuellement. Et ça, c'est très cool de bosser dans une boîte dans laquelle, ça launch très, très fréquemment, parce que du coup, ça t'ouvre plein de possibilités, quoi. Ça, c'est très cool.
Ouais, clairement. Vous avez aussi et t'as dit que vous en aviez fait un launch Product Hunt. Un play autour de features autour de l'AI.
Ouais.
À quel point est-ce que ça, c'est un enjeu? Parce que, tu vois, l'AI, il y a à boire et à manger.
Ouais.
et là, je sens, je commence un peu à sentir, tu vois, que sur le marché, la hype est un petit peu en train de se tasser parce que on connaît un peu les use cases et puis globalement, les use cases qui ont hypé un peu tout le monde, ça, tu vois, le soufflet un peu retombé. À quel point est-ce qu'aujourd'hui, pour une boîte comme Folk, tu vois, le fait de miser sur de l'AI, c'est game changer?
Je pense que ça va l'être. En tout cas, dans le secteur du CRM, ça va l'être. Parce que je pense que historiquement, un CRM a toujours été vu comme un outil dans lequel tu rentres de la donnée. C'est toi qui remplis cette donnée, c'est toi qui l'alimentes, en fait, cet outil. Et le prisme qu'on a, nous, et que je pense sur long terme va être gagnant, c'est qu'en fait, c'est à ton CRM aussi de t'apporter cette donnée, de t'apporter des insights, en fait. Parce que historiquement, quand tu donnes un CRM, il te rend un. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est quand tu donnes un, il te rend 10. Parce que de l'insight, parce que de la data, parce que de l'AI, etc., etc. Donc ça, c'est la vision long terme qu'on a. Et aujourd'hui, nous, l'AI qu'on a mis dans le produit, elle sert à enrichir des contacts. Alors, ajouter des champs en plus pour que la donnée soit de plus en plus pertinente. Et elle sert aussi à reach out au bon moment avec le bon message, personnalisé, etc., etc. Donc ça, c'est les features qu'on a mis en place aujourd'hui dans Folk. Mais en tout cas, la vision de long terme. Mais je pense que d'ailleurs, même HubSpot est en train de le faire. Enfin, beaucoup d'acteurs sont en train de le faire. C'est vraiment de se dire que ton CRM vient te donner, des insights que tu n'as pas rentré au départ, en fait. Parce que sinon, ça a pas d'intérêt. Si tu dis, je veux ça à un CRM et qui te redit, bah oui, bah tu auras ça.
Oui, bon, oui.
Bah l'un dans l'autre, oui. Ils travaillent, voilà. Et tu vois, nous on dit souvent, il faut que ton CRM travaille pour toi et pas l'inverse, tu vois.
Ouais.
C'est un peu l'idée.
Ouais.
Donc, mais dans le CRM, ça va être obligatoire, je pense.
Mais donc c'est des enjeux qui sont très ops.
Qui sont très ops, ouais, qui sont très ops. Après, tu vois, il y a plein de plays que nous on prend pas aujourd'hui, mais qui sont par exemple dans l'onboarding. Est-ce que demain, l'AI peut pas t'aider à customiser ton CRM par défaut? Tu donnes, je sais pas, quel type de boîte tu es, quel type de workflow tu as, et le CRM se paramètre automatiquement, tu vois. Il y a plein d'enjeux, plein d'idées sur lesquelles on pourrait aller. Je pense surtout qu'aujourd'hui, Folk est à un stade de développement produit, dans lequel il faut qu'on consolide des choses. Par rapport à nos concurrents existants, et que tout, personne nous attend sur l'AI, en fait. Voilà. Si on te résume, personne ne vient nous voir en disant, alors, l'AI. Voilà. Les gens viennent nous voir pour avoir un CRM qui fonctionne, pour faire du business et pour gérer des relations. Voilà. S'il y a de l'AI en plus, c'est que ça les aide. Parce que toujours pareil, l'AI, c'est bien, mais si c'est du temps en plus, ou des workflows en plus, c'est un peu contre-productif, quoi. Donc, le but, c'est de rester dans la veine de Folk, simple, intuitif, puissant, sans rajouter une couche compliquée, quoi.
Côté data,
ouais.
T'as mentionné que, bon, j'ai l'impression que t'as, votre obsession, c'est le CAC payback.
Ouais.
C'est ça?
Ouais, c'est une obsession, ouais, c'est... Ouais, ouais, bien sûr. En tout cas, c'est la KPI qu'on regarde le plus aujourd'hui. Après, CAC payback ou LTV sur CAC, ça dépend...
Oui, non, mais...
Peu importe comment tu le prends. Mais oui, clairement, nous, tu vois, milieu du SaaS... dans lequel il y a beaucoup de benchmarks quand même.
Oui.
On arrive du coup à se comparer aussi. Évidemment, on regarde CAC payback, on regarde notre croissance month on month, on regarde notre ARR, on regarde nos cohortes, notre senior cap, on regarde plein de choses, mais à la fin de la fin de la fin, ce que tu regardes, notamment pour apprécier une channel, c'est ton CAC payback. Et il faut que celui-ci soit le plus pertinent possible d'un point de vue business, quoi, en train de rentabilité business.
Et donc toi, à part ces métriques business qui sont très macro et que j'imagine qu'en fait c'est un peu la data qui drive toute la boîte,
ouais.
Toi, c'est quoi les data que tu regardes ?
Volume de sign-up, sign-up CAC. Je regarde aussi, tu vois, par exemple, ARR Generated, je regarde months on months, les cohortes aussi, est-ce qu'on fait un bon mois, pas un bon mois, etc. Quelle forme elles ont aussi ? Est-ce qu'il y a une cohorte, par exemple, qui... je sais pas, part très bien et qui après part moins bien. Ça, c'est un truc qu'on regarde nous parce que ça veut dire que potentiellement la qualité du user qui arrive est moins bonne d'un mois sur l'autre. On regarde le scoring aussi de tous nos users qui rentrent. Voilà, et après par channel, t'as des KPI par channel différentes. Mais en fait, à la fin, tu retombes toujours sur un sujet de cake payback ou de profitabilité ou de rentabilité parce que tu dois juger à l'aube de ça, en fait. En fait, nous, on a décidé dès le départ de prendre une matrix et de dire ça sera celle-là qu'on regardera pour tout, parce que ça t'évite des biais cognitifs qui sont oui, mais en fait l'affiliation c'est pas exactement pareil, du coup c'est plus cher, mais non, y a pas de mais, c'est à quelques payback équivalent, il faut savoir sur quoi on doit se focus, et donc du coup on décide de prendre cette KPI pour driver notre impact, quoi.
Oui, encore une fois, vous êtes dans des considérations aujourd'hui qui sont bah voilà, une phase assez early,
ouais.
Et donc cette phase assez early, en fait tu te fixes un objectif, tu n'as pas besoin d'être sur 50 channels. S'il y en a une qui explose toutes les autres,
exactement,
t'investiras sur celle-là,
basta. Faut y aller. Clairement faut y aller, et puis après t'as toujours un batch de, enfin tu vois, t'as toujours un backlog de tests dans lequel t'es jamais à l'abri de trouver quelque chose. Mais déjà, enfin moi, je suis un peu dubitatif sur l'idée de trouver quelque chose. Personne ne trouve quelque chose. On copie quelque chose qui marche déjà, ou qu'on fait mieux, ou qu'on fait un peu différemment. Donc, si tu veux, nous, ça fait, tu vois, ça fait 2 ans que moi je suis chez Folk. S'il y avait des énormes channels qu'on avait ratés, ça saurait, ça saurait, tu vois. Donc on, là, on se focus sur ce que nous on pense être des channels qui sont aujourd'hui intéressantes et qui le seront, parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est bien de se focus sur un sujet à un instant T. Mais est-ce que l'énergie que tu mets sera toujours aussi intéressante dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Et donc, il faut que déjà que tu penses, nous, on est déjà dans cette réflexion de se dire, OK, on fait de l'influence, l'affiliation, etc. Est-ce que dans 1 an, ça a les mêmes perfs? Et la question, c'est comment tu fais pour qu'aujourd'hui, tu fasses les efforts pour que ça ait cette perf-là dans 1 an, quoi.
Tu sais, j'ai entendu parler de ce nouveau channel Clubhouse. Je sais pas si t'en as entendu parler.
Ouais,
a priori, c'est l'avenir.
C'est incroyable. Ah, ça, c'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est, mais si tu veux, si t'écoutes les gens et qui tu vois, moi, je parle beaucoup avec des gens, etc., dans le milieu gros, etc., et t'as toujours cette, tu vois, cette envie de découvrir la channel que personne n'a jamais découvert.
Et puis, voilà. Et du coup, la problématique, c'est que du coup, ça crée du FOMO, ça crée le biais du shiny object, où dès que tu vois un petit truc, tu te dis oh, en fait, c'est le truc que j'attendais depuis si longtemps. Bien tu sûr. Vois. Mais ça marche pas comme ça.
Non, alors qu'en fait, devant toi, il y a déjà ce qui doit marcher. Et après, c'est juste une question d'effort que tu y mets.
Voilà, allocation des ressources.
Voilà, et donc on a toujours un backlog de thèse dans lequel on tente des choses, etc. etc. Mais 99,9% de notre temps, il est sur les channels qui marchent aujourd'hui.
Évidemment.
Et sur lesquels on a encore de la profondeur. Parce que s'il n'y avait plus de profondeur, voilà.
Oui, ce serait quand même un peu
problématique. Mais il faut qu'il y ait la profondeur, quoi.
Ouais, ok. C'est quoi les tools que vous utilisez au quotidien?
Folk.
Ok.
Évidemment, c'est notre CRM.
Non.
Si, si, bien sûr. Donc, il faut manger sa propre nourriture.
Ouais.
Voilà. Donc, et ça, c'est hyper important. Tu vois, je pense que c'est important, même en démo, etc., quand on dit, voilà, je vais vous montrer comment nous, on gère notre pipeline sales, par exemple, et qu'on montre comment ça marche.
Tout de suite,
il y a une accroche aussi avec les gens avec qui tu discutes, quoi. Voilà, tout l'outbound, on le fait sur Folk. On enrichit toutes nos bases sur Folk, etc. En fait, c'est vraiment devenu core business pour nous.
Ouais,
exactement. On a le data warehouse qui est monté en interne. La database et Metabase sur lequel on requête, etc., etc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire? On en a pas mal. C'est pour ça que j'essaie de trouver ceux qui font du sens. Qu'est-ce qu'on a? On a Hotjar pour la partie, tu vois, visualisation, etc., etc. Full Story, on avait Full Story aussi pendant un moment.
Ok.
Voilà. On est sur Webflow pour notre landing.
Ok.
On a utilisé Lemlist aussi pour l'outbound pendant un moment. C'est toujours le cas un petit peu. Et pour multicanal aussi, parce qu'on target beaucoup sur LinkedIn aussi, donc ça, c'est un sujet. Voilà, Figma pour la partie design, même brand design, on fait beaucoup sur Figma.
Ok.
Voilà, Segment pour essayer de... En fait, Data Warehouse en interne et Segment on top of that pour justement essayer de venir plugger des trucs plus facilement, genre, tu vois, Google Ads, on a plugé avec Segment, on va pas tout relier en DB en interne, on passe par Segment pour brancher avec d'autres outils. Voilà, là, comme ça, c'est les premiers qui me viennent, mais...
C'est déjà pas mal, hein.
Ouais, c'est bien, enfin, on a beaucoup d'outils, hein, c'est
oui,
sûr.
Oui, non, mais c'est une start-up.
Ouais, voilà. Mais tu vois, Folk CRM, ce qui est rigolo, c'est qu'on a... Enfin, c'est pas rigolo, mais on a intégré HubSpot pendant 6 mois, nous-mêmes, chez nous, pour voir la douleur que c'était et pour comprendre aussi les pains de nos potentiels clients qui étaient sur HubSpot, tu vois. Donc c'est moi qui s'occupais de l'intégration HubSpot et en fait on s'est rendu compte que on n'était pas très très loin avec Folk, en fait. Bon, ça nous a pris 6 mois pour s'en rendre compte, mais arrivé au bout de l'intégration, on a dit on utilise que 10-15% de HubSpot, en fait. Et donc en fait et du coup c'était un bon déclic pour nous aussi de se dire on n'est pas très très loin, et c'est aussi comme ça qu'il faudrait présenter Folk, en disant on est 100% de vos 10% de nos spots, en fait. Tu vois, et donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous, tu vois, et on utilise beaucoup d'outils que nos clients utilisent pour justement trouver un peu la façon d'en parler, la façon d'échanger sur le sujet, quoi.
Je reviens sur un sujet positionnement, je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant.
Ouais.
Tu vois, aujourd'hui, moi, je distingue vraiment le côté, tu vois, parce que là, t'as mentionné HubSpot, et du coup, j'étais en train de me dire, il y a quand même un sujet qui est, pour moi, tu vois, un CRM, il y a un peu 3 grands pans de CRM. Mm-hmm. Et tu vois, on en parlait en off avant où je te disais, ah oui, il y a Zendesk. Et tu me disais, oui, bon, CRM, bon, voilà. Pour moi, il y a vraiment HubSpot, sa porte d'entrée, c'est le marketing.
Ouais.
Salesforce, la porte d'entrée, c'est le sales.
Ouais.
Et Zendesk, la porte d'entrée, c'est le CSM.
Ouais.
Et tu vois, du coup, pour moi, le CRM, il fait un peu, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Et vous, aujourd'hui, d'un point de vue positionnement, j'ai l'impression que vous avez fait le choix d'être positionné plutôt sur de la partie sales, tu confirmerais ?
Ouais, bah, c'est en tout cas le cas d'usage qui est le plus fréquemment utilisé dans Folk. Après, dans, en fait, c'est, le truc, c'est que dans sales, t'as plein de sous-catégories.
Bien sûr. Mais le power, déjà, le power user.
Tout à fait.
Et puis, bon, on travaille avec beaucoup de grosse scale-up, voilà, un peu le top des boîtes FR. Et moi, j'hallucine à chaque fois de voir que, en fait, ils ont HubSpot plus Salesforce. Et je leur dis, mais du coup, c'est quoi les cas d'usage ? Ah bah, l'équipe marketing bosse sur HubSpot, l'équipe sales bosse sur Salesforce.
Ouais. Bah ouais, mais c'est.
Et du coup, tu sais, c'est effectivement, au-delà du cas d'usage marketing et sales, ouais. C'est qui sont les users, en fait.
Exactement.
Et le user de HubSpot, c'est un marketeur. User de Salesforce, c'est un sales.
Ouais, complètement.
Vous, aujourd'hui, vos power users, c'est plutôt des sales ?
Bah, c'est pas des sales dans le sens métier, c'est-à-dire que c'est pas un BDR ou un account executive, c'est vraiment un founder qui ferait. En fait, nous, sales, c'est vraiment l'usage. Ouais. C'est pas qui il est. Voilà. Mais on a beaucoup de founders qui font du sales, soit des gens qui font des agences qui font du sales aussi, tu vois. Mais c'est vraiment. Ça part du fondateur, c'est-à-dire que c'est pas. C'est pas, il n'y a pas une équipe sales aujourd'hui. Il y a très peu d'équipes sales sur Folk, c'est très rare. Parce qu'on a des features qui manquent. Il faut être très honnête, tu vois, il y a des features qui manquent aujourd'hui. Et que aussi, par défaut, on a adressé un marché qui n'était pas celui-ci.
Mais du coup, oui, vous êtes vraiment enfin, là, d'un point de vue positionnement, il y a un peu ce côté gestion commerciale qui est très porté par la direction. Etc.
Exactement. Et je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est que nous, on a pris aussi un prisme de facilité. Tu vois, c'est facile de faire des premiers deals avec Folk, etc. Ouais. etc. Là où setup HubSpot, entre le moment où tu setup HubSpot et le moment où tu fais ton premier deal, il peut se passer du temps. Tu vois, il peut se passer du temps. Et nous, l'idée, c'était de dire, il y a plus cette friction-là, en fait. Et n'importe quel founder qui veut commencer à faire des deals, n'importe quel CEO d'agence, tu vois, qui fait ça un petit peu à côté de ses missions, enfin pas un petit peu à côté, mais tu vois, ça fait partie d'un ensemble de missions, tu vois, et qu'il a pas forcément le temps de remplir le champ exact, le workflow déclenche truc. Il a besoin d'avoir une vision pipe, des compagnies ou des contacts, de pouvoir envoyer des emails, de pouvoir faire des campagnes, de pouvoir enrichir ses contacts. Enfin, tu vois, des besoins en fait primaires, mais qui sont en fait des besoins que tout ce marché-là n'arrivait pas à retrouver dans un spot ou dans un Salesforce, parce que avant d'arriver à utiliser HubSpot à son plein potentiel, il faut un peu de temps, il faut des gens, il faut du temps, il faut du budget, il faut plein de choses. Et donc, du coup, il y a plein de boîtes qui étaient mal servies par HubSpot. J'ai rien contre HubSpot. Depuis tout à l'heure, on en parle, mais j'ai rien contre HubSpot. Mais en tout cas, après, eux, très objectivement, n'ont pas adressé ce marché-là. Tu vois, depuis le départ, ils ont dit, nous.
Non, mais complètement.
Nous, ça, c'est pas grave. Ça, si ces gens-là n'utilisent pas HubSpot, c'est pas grave. Tu vois. Donc c'est un énorme marché. Donc, ce marché-là, il faut quelqu'un le prenne. Et pour l'instant, c'est un peu le petit qu'on a. Quoi.
Totalement. OK. Et du coup, c'est quoi vos next steps?
En termes de produits, il y a plein de choses qui arrivent parce que tu disais tout à l'heure, c'est un sujet de checklist, un peu le CRM, donc il y a plein de petits checks qu'on doit mettre. Voilà, donc ça c'est le premier point. Positionnement, c'est aussi un autre sujet qui arrive parce que c'est toujours en mouvement, mais en tout cas on essaie d'être au plus près de ce qui nous paraît être le meilleur positionnement pour nous en tant que boîte, pour nos users et pour l'acquisition, pour plein de choses. Voilà, il y a des recrutements qui arrivent aussi sur des sujets market, des sujets sales aussi, voilà. Donc non, écoute, plein de bonnes choses. Je pense que on est vraiment au début de l'histoire de Folk. Tu vois, ça fait quasiment 2 ans et demi que le produit est live. Donc il y a plein de choses à faire. Il y a plein de channels qu'on n'a pas ouvertes parce que c'est pas le moment et parce que c'est du défocus. Les sujets d'intégration, les sujets de partenariat, les sujets de, enfin, il y a plein de choses qu'on fait pas encore. Mais qui vont venir, en fait, on parlait tout à l'heure de focus pas ou des focus, qui vont venir quand la maturité du produit, la maturité de qui on est dans ce marché-là sera pertinente, quoi. Faire du channel sales aujourd'hui, pour nous, ça a aucun sens, par exemple. Donc, plein de bonnes choses à venir. Et c'est vraiment que le début, je pense, ouais.
Trop bien. Pour les personnes qui veulent te contacter, c'est où ?
LinkedIn, évidemment.
Évidemment.
Évidemment. Évidemment.
Je pose la question à chaque fois, mais en fait, c'est la même réponse.
Je suis trop sur LinkedIn, mais c'est là où on peut contacter.
Ouais. Bah oui, mais en même temps, tu vas chercher des influenceurs.
Ça fait partie de mon taf, ouais. Donc,
c'est le premier channel.
C'est vrai. Non, c'est vrai, mais ça prend du temps.
Bah oui, j'imagine. Bon, Erwan, merci beaucoup pour tout ça. Merci aux personnes qui écoutent encore cet épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, l'abonnement, le like, les 5 étoiles sur les plateformes, vous connaissez. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!
Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!